Hello chers auditeurs, bienvenue sur le boulevard de la Corderie. Boulevard de la Corderie, ce sont des conseils et des retours d'expérience du monde de l'entreprise et d'ailleurs. Ici, je partage avec vous des outils et des exemples qui vous guideront dans la réalisation de vos projets. Je suis Juliette Pagès, passionnée de développement et d'entrepreneuriat au sens large. J'adore l'énergie qui se dégage quand on innove, qu'on crée, qu'on fait avancer les choses et j'accompagne des entreprises sur les sujets liés à leur croissance et à leur pilotage. Aujourd'hui dans le boulevard de la Corderie, je vous présente Roland Couture, consultant et entrepreneur.
Et à un moment donné, vous allez avoir une impulsion, une intuition. C'est là qu'il faut que le non-risque n'intervienne pas. Vous avez l'intuition que c'est par là, il faut écouter votre intuition.
Roland Couture est ingénieur de formation. Il a travaillé 37 ans dans le conseil en organisation et en stratégie, a écrit un livre sur les mutations économiques, enseigne le conseil en école d'ingénieurs et aujourd'hui, il prépare le lancement d'une start-up innovante. On a parlé des débuts de l'activité de conseil, des différentes façons d'entreprendre, de comment choisir ses associés et aussi de l'influence de sa passion pour la course au large sur son parcours. À vos écouteurs, on y va. Roland Couture est marseillais et très attaché à la mer, il cultive, selon son expression, le besoin d'horizon. Il commence jeune à faire des régates et à la fin de ses études, il se lance dans la course au large, enchaînant traversée de l'Atlantique, championnat de France, championnat du monde et même chasse au bateau volé. 3 ans d'aventure, à l'issue desquels il décide de retourner sur Terre. J'ai donc demandé, pour commencer, comment il en était venu à faire ce choix en sortie d'école. Était-ce une décision consciente de prendre du temps avant de commencer à travailler ?
Basculer comme ça de l'étude au travail, ça me faisait peur. Et puis, en même temps, je me disais, c'est maintenant ou jamais, d'aller voir un peu ce qu'il y a dans le monde, de prendre une respiration avant de rentrer dans le monde du travail. Et donc, je l'ai fait. Mais je pensais, une fois que j'étais engagé là-dedans, je pensais vraiment faire ma carrière dans la course au large. Et ce qui m'a fait changer quand même, c'est que je me suis rendu compte au bout d'un certain temps que moi, j'avais un diplôme d'ingénieur en poche. Donc un certain confort, et que j'avais autour de moi des équipiers, des compétiteurs qui, eux, souvent n'avaient rien d'autre que de réussir dans la course au large. Donc ils allaient beaucoup plus loin que ce que j'étais prêt à aller. Non pas que je manquais de courage, je me suis retrouvé en tête de mât au moment d'un Admiral's Cup où il y avait une tempête qui se déclenchait parce que personne ne voulait y monter. Donc c'était pas ça, mais disons qu'il y a un moment où le courage devient de la témérité. Et là, moi, j'étais plus du tout prêt à le franchir, alors qu'eux, qui n'avaient rien à perdre, étaient prêts à le faire.
Et une telle coupure, qu'est-ce que ça apporte ? Est-ce plus simple de se positionner après ça ?
Quand on est loin du monde, on prend beaucoup de distance avec ce qui se passe en Europe, dans l'Occident d'une manière générale, et on se repositionne. Je pense que c'est vraiment salutaire de faire ce moment-là.
Son premier emploi est dans un cabinet de conseil. Pourquoi un tel choix ?
Pour moi, à l'époque, le conseil, surtout que c'était dans un cabinet qui travaillait pour les ministères, les organisations publiques, c'était faire quelque chose qui allait faire avancer la collectivité. Donc ça avait un sens. J'entends souvent parler aujourd'hui dans les générations Y, ils ont besoin d'avoir du sens. Je crois que ce n'est pas simplement aujourd'hui, ça a toujours été comme ça. On recrute bien quand on donne un sens, quand on vend le projet aux gens qu'on recrute.
Après quelques années, il décide de s'intéresser à d'autres secteurs.
Au bout d'un moment, j'ai estimé que j'avais un peu fait le tour de la question. J'avais envie d'apprendre autre chose. Donc j'avais envie d'apprendre comment ça se passe dans les banques, comment ça se passe dans l'industrie, etc., puisque je n'avais fait que de l'administration. Et donc, je suis rentré chez Capgemini comme l'un des tout premiers consultants. Et là, c'était fabuleux parce que c'est finalement un moment d'aventure dans le monde professionnel comme j'avais un peu connu dans le monde de la voile, c'est-à-dire que on m'a dit, tu as carte blanche, développe le conseil. Voilà. Et maintenant, c'est très organisé, très normé, très etc. Ce sont des marchés qui sont devenus très matures. Mais donc là, il y avait tout à inventer, les méthodes, convaincre les clients, etc.
À côté de son emploi en conseil, sa passion pour la voile lui permet d'avoir d'autres activités.
Je devais participer à une course autour du monde. Et donc, j'avais préparé le bateau. Puis finalement, ça ne s'est pas fait. Il y avait un problème de sponsoring. Et donc, j'avais sympathisé avec les fabricants, équipementiers et autres. Et donc, ils m'avaient proposé de les représenter. Donc, j'ai créé une entreprise. J'ai confié à un membre de ma famille pour la développer. Mais bon, j'ai été un petit peu derrière pendant toute la phase de création, en tout cas. Voilà. Donc, j'ai fait ça. Et puis, parallèlement, j'avais créé une association qui était un joint venture, en fait, entre le commissariat à l'énergie atomique et puis un fabricant de matériaux composites pour la mise au point de codes de calcul, de structures en matériaux composites.
J'ai alors ajouté qu'avoir de grosses contraintes, dans son cas, sa passion pour la voile, est la meilleure façon de créer des solutions innovantes et donc des opportunités.
C'est l'envie et qui guide tout ça. Lorsque je faisais de la voile, j'étais dans l'action, mais il me manquait la réflexion. J'emportais toujours des bouquins scientifiques à lire pendant mes traversées ou autres, parce que ça me manquait. Et puis quand j'étais dans la science, il me manquait l'action. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je ne suis pas rentré. J'ai pas continué au CEA, là où j'avais fait mon stage. C'était superbe, c'était vraiment très, très bien comme environnement, comme cadre de vie, cadre de travail et tout. Mais il me manquait l'adrénaline que n'a pas le chercheur dans la réalité.
Et qu'est-ce qui l'a poussé à se lancer à son compte ?
J'avais créé des entreprises jusqu'à présent, mais j'avais toujours un boulot de salarié à côté. Et puis, j'ai vu une bande dessinée où on voyait le personnage qui se disait « Bon, je fais mes études et après, je crée une boîte. » Et puis, à la fin de ses études, il se disait « Je vais peut-être un peu acquérir d'expérience, je vais rentrer dans une grande entreprise et après, je crée ma boîte. » Et puis, au bout de quelques années dans la boîte, il dit « Bon, je vais peut-être changer pour un peu diversifier mon expérience et puis après, je créerai ma boîte. » Et il fait comme ça, toute sa vie. Et la dernière image, il est dans son cercueil et il dit « Ça y est, j'ai ma boîte. » Et donc, je me suis dit « Ça, jamais. » Voilà. Et donc, il faut que je franchisse le pas. Et donc, c'est là où je l'ai fait. C'est vrai qu'au début, dans la création de boîte, d'entreprise, on se fait un monde. On se dit que c'est quelque chose de terrible, ça va être très difficile, etc. En fait, c'est pas du tout ce qu'on pense. Il y a beaucoup de marge de manœuvre, il y a beaucoup de latitude. Les gens autour de vous sont plutôt tolérants, acceptent beaucoup de choses, y compris les administrations. Donc, il faut se lancer. Évidemment, il faut assurer son coup au maximum. Moi, j'étais un petit peu trop téméraire. Je me suis pas mal trompé. J'ai souvent anticipé le marché, par exemple dans la veille stratégique. Le marché est venu beaucoup plus tard et donc j'ai pas mal galéré, ramé à essayer d'évangéliser les gens en leur disant « Voilà, la veille stratégique, c'est ça. » Et puis, elle me disait « Ah bon, on va y réfléchir, revenez dans quelques mois. »
Sa première activité en indépendant est donc dans la veille stratégique. Concrètement, comment cela s'est-il passé ?
J'étais un peu prudent et donc je me suis adossé à un groupe. À défaut de convaincre beaucoup de clients, j'ai convaincu un partenaire de se diversifier. C'était un groupe de chasse de tête et de recrutement. Et je l'ai convaincu de se diversifier dans la veille stratégique. Il a pris des participations importantes dans la société, ce qui fait qu'il me ramenait des clients. Et puis ensuite, on a élargi un peu en faisant du conseil.
Cependant, le marché se resserre et on évoque ici son premier pivot en tant qu'indépendant. Note aux auditeurs, écouter le marché est clé. Il est important de savoir évoluer pour suivre les tendances du côté de la demande.
Ce partenaire s'est recentré sur son métier de base. Je l'avais engagé aussi à créer une activité de conduite du changement qui me paraissait être le maillon manquant entre ce qu'on faisait de la veille et puis ce qu'il faisait, c'est-à-dire du recrutement. Puis, comme souvent, au bout d'un certain temps, surtout en fonction des marchés qui se compressent ou se dilatent, on décide de se recentrer sur son métier de base, ce qu'il a fait. Et donc, il a coupé les liens avec, d'une part, la veille stratégique et, d'autre part, l'activité de conduite du changement. Donc, moi, j'ai quitté et je me suis mis à mon compte pendant un certain temps. Et puis, j'ai fini par créer ce cabinet de conseil en stratégie du Pont Partners. Tous les gens avec qui je travaillais m'ont rejoint pour créer ce cabinet-là.
Quel était le modèle de ce second cabinet ?
La grosse difficulté, c'est qu'on a essayé de partir sur un cabinet de conseil qui était, disons, les associés n'étaient pas des salariés. C'était une sorte de réseau avec une société de tête et tout le monde alimentait cette société de tête par des missions et des clients. Ce qui fait que la transition n'est pas facile pour tout le monde, puisque en fait, on arrive avec ses propres clients et puis petit à petit, il faut les amener vers le collectif. Et donc, suivant ce qu'on sent du collectif, et chacun va sentir de façon différente, on va les amener de façon plus ou moins rapide, ce qui crée des tensions. Et puis surtout, quand on est dans une configuration comme ça, il n'y a pas de système autoritaire de décision centralisée ou autre. Il faut que ça ne marche que sur la conviction de tout le monde. Et donc, il faut passer beaucoup de temps dans ces réunions, etc. Ce que je pense qui est aujourd'hui nécessaire, au niveau de toutes les organisations, salariales ou pas. C'est-à-dire qu'il faut que les salariés d'une activité travaillent avec du sens. Pas qu'ils travaillent pour travailler, qu'ils travaillent parce qu'ils ont l'impression de contribuer à quelque chose.
Et concrètement, qu'est-ce que cela implique ?
Je ne vois pas comment je pourrais travailler, pour gagner ma vie. Je travaille parce que ça me plaît. Quand ça ne me plaît plus, je change. Alors, ce n'est pas toujours facile. C'est-à-dire que ce qui vous plaît, ça peut ne pas plaire à beaucoup de monde. Et donc, vous n'avez pas beaucoup de clients. Et donc, vous passez par des périodes difficiles. Mais vous avez toujours ce moteur qui vous permet de tenir. Je crois que c'est fondamental.
Il y avait 8 collaborateurs dans ce second cabinet. Avec une telle taille, comment choisir ses associés et définir la vision de l'entreprise ?
Quand on est dans le conseil, il faut choisir des partenaires qui ont une expérience du conseil. J'ai fait à un moment une erreur de prendre des gens qui étaient experts dans leur métier. Sur le plan commercial, ça ne fonctionnait pas. Un expert n'est pas spécialement un bon consultant. Parce que l'expert va donner la vérité. Quelle qu'elle soit, dans quelque situation que ce soit, il va vous dire la bonne méthode, c'est ça. Le but à atteindre, c'est ça. Et peut-être que l'entreprise n'a pas les moyens d'atteindre ce but-là. Et ce n'est pas le problème de l'expert. Alors que, et ce qui est aujourd'hui devenu le métier du consultant, ça consiste à faire du sur-mesure, justement, à comprendre quelles sont les forces, les faiblesses, etc., qu'est-ce qu'on peut utiliser. Et on ne va peut-être pas atteindre cette vérité absolue, on va atteindre à côté, mais de toute façon, on va atteindre quelque chose. Dans les premières fonctions de conseil que j'ai exercées, on avait un peu ce fonctionnement d'expert. Je me souviens très bien, chez un client, avoir remis à son directeur général un plan de développement de son système d'information. Il l'avait accepté, puis le présenter au directeur informatique, me disant « Mais comment je vais faire pour mettre ça ? Mais j'ai pas les moyens, j'ai pas les compétences, j'ai personne chez moi, etc. » Et là, je suis tombé des nues, parce que j'avais pas du tout pensé à cette problématique de mise en œuvre derrière. C'était bon. Et depuis, l'accompagnement, la conduite du changement, tout ce genre de choses a été développé. Mais c'est en grande partie, ça vient en grande partie de cette période-là.
Que recommander à ceux qui veulent se lancer dans le conseil ?
Il faut se lancer, de toute façon. Pour quelqu'un qui se lancerait là-dedans, je pense qu'il faut qu'il s'associe à des gens qui ont de l'expérience dans le conseil et qui travaillent de préférence pour des grands groupes de conseil. C'est de vendre son expertise à des grands groupes de conseil. Je crois que la formation des grands groupes, c'est une excellente formation. Ça apporte vraiment les méthodes, les façons de travailler et puis surtout, ça apporte les relations qui vont permettre de franchir le pas.
Revenons-en au cabinet. Comment vous êtes-vous positionné ?
Au début, on est parti sur cette histoire de fédération de consultants. Et puis, très vite, je me suis retrouvé face à un client à qui j'ai dit, voilà, je vais dérouler un petit peu toutes les compétences qu'on avait, et voilà ce qu'on sait faire, etc. Comme si j'avais été dans un grand cabinet. Et puis, il me dit, vous êtes aussi peu nombreux et vous faites tout ça. Et là, j'avais compris le message. J'avais compris qu'on n'était pas crédible. Que quand vous vous lancez quelque part, il faut vraiment avoir une offre très ciblée. Pour réussir sur un marché, il faut être visible, lisible et crédible. Voilà. Et donc, visible, c'est-à-dire que vous allez manger de la vache maigre pendant un certain temps tant que les clients ne viennent pas naturellement à vous. Donc, c'est vous qui êtes obligé d'aller les chercher. Ensuite, quand vous êtes lisible, c'est-à-dire que en fait, tout va se décider dans les premiers mots que vous allez prononcer à votre client. Et crédible, et ben voilà, c'est que vous devez avoir un discours et puis une expérience qui fait que on vous fait confiance parce que le conseil, c'est vraiment ce qu'on vous confie, c'est quelque chose que le client n'arrive pas à résoudre ou n'a pas le temps de résoudre. Voilà. Donc c'est vraiment un problème de confiance. À la différence d'une société de service où le client donne un besoin. Et puis, il faut satisfaire ce besoin. Dans une activité de conseil, le client donne un problème. Et il faut dire, votre problème, je vais le résoudre dans tant de temps. Donc, c'est vraiment de la confiance qu'on vend. Quand on n'a pas de notoriété, c'est très difficile de vendre de la confiance.
Et toujours dans le cas de ce cabinet, comment vous êtes-vous développé ?
Lorsqu'on a démarré, le marché du conseil était déjà mature. Les grands cabinets existaient déjà. Nous, on cherchait un tout petit créneau. La problématique du conseil, c'est qu'une année, ça marche très bien. Et puis, comme ça marche très bien, tout le monde est occupé à travailler et plus personne n'a le temps d'aller chercher des clients. Et donc, l'année suivante, c'est le retour de flamme et ça ne marche pas bien. Donc, ça démarrait comme ça par phénomène de vague.
Alors, quelle est la clé de la réussite ?
La condition de survie, c'est de sortir du lot. Voilà. Mais très différent, d'être très différent des autres. on ne peut pas faire une petite différence et espérer que ça va se vendre. Ou espérer que ça va se vendre juste parce que vous êtes sympathique et que votre client va l'acheter. En fait, il faut avoir une offre qui soit beaucoup moins chère, qui casse totalement les prix. Soit vous avez une offre qui vraiment se distingue des autres. Mais avec, quand vous cassez les prix, l'obligation que la qualité reste acceptable pour le plus grand nombre. Et quand vous êtes très au-dessus de tous les autres en termes de qualité, mais que vos prix restent accessibles à un nombre suffisant de clients pour vous permettre de vous développer.
Après une carrière dans le conseil et riche en rebondissements, Roland décide de repartir à la conquête du futur et crée Prodige, la start-up dont je parlais en introduction. Prodige est un réseau social qui veut révolutionner les pratiques culturelles pour leur faire prendre le tournant du numérique. À l'heure de l'enregistrement, le projet est en plein déploiement. Affaire à suivre, donc. Allez, on y retourne. C'est la série des questions à un entrepreneur. Pour commencer, est-ce qu'il y a un sujet dont vous vouliez parler et que l'on n'a pas eu l'occasion d'évoquer ?
Peut-être souligner le plaisir d'entreprendre. On va vers un monde où il va y avoir de plus en plus d'entrepreneurs, de plus en plus de gens en libéral ou en freelance, mais c'est aussi une façon d'entreprendre. À mon avis, c'est enthousiasmant. C'est une publicité d'Apple vers les années 2000 qui disait « Seuls ceux qui pensent qu'ils peuvent changer le monde y parviennent ». On est vraiment dans un monde de conquête.
Ça se voit pas mal dans votre parcours. Et s'il y a un conseil que vous voudriez donner à des personnes qui ont des projets et qui veulent se lancer ?
Il me vient, en vous entendant dire ça, l'image que j'avais en bateau, lorsque j'étais en bateau, en course. Mm-hmm. Bien souvent, vous aviez pas mal de vent. Bon, c'était sur un équilibre instable sur le bateau. Et puis, vous aviez un concurrent qui se mettait à envoyer une voile ballon, là, qu'on appelle le spinnaker. Et vous, vous disiez, il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille là, parce que sinon, je vais perdre ma place. Mm. Et vous lanciez aussi le spi. Et vous vous lanciez, mais en ayant pris le maximum de choses pour que ce risque que vous preniez soit un risque maîtrisé. Je pense que c'est la même chose pour se lancer dans le monde de l'entreprise, dans la création de projets. Il faut y aller. Il faut se dire qu'on va y aller, mais qu'on va prendre le maximum de moyens pour maîtriser, sécuriser le risque qu'on prend, mais il faut le prendre.
D'accord. Et quand est-ce qu'il faut s'entourer de conseils et de marché, et quand est-ce qu'il faut décider par soi-même, quitte à ce que ce soit peut-être à contre-vent de ce qu'on voit de façon générale?
Moi, je dirais, il faut toujours prendre des conseils. Il faut toujours écouter autour de soi, c'est fondamental. Mais il faut toujours décider soi. Oui. Ça ne peut jamais être le conseil qui décide.
À quel moment on tranche? Si on a des conseils divergents, et à quel moment on sait que...
L'intuition, c'est fondamental. Voilà.
C'est son intuition qui parle.
Absolument. Mais dans les années 70, c'était l'époque de la cybernétique. Et on essayait de modéliser la prise de décision. Et ça a été un échec. On s'était rendu compte que le décideur était boulimique en information. Et puis à un moment donné, la décision tombait et on ne sait pas qu'est-ce qui avait déclenché ça. Donc je crois que... On a une grande chance d'avoir un cerveau qui a d'un côté des sentiments et de l'autre côté de la raison, et que c'est le mélange des deux, et à un moment donné, vous allez avoir une impulsion, une intuition, etc. C'est là où il faut que le non-risque n'intervienne pas. Vous avez l'intuition que c'est par là qu'il faut aller, il faut écouter votre intuition.
Ouais. Il faut à un moment accepter qu'on décide avec une part d'incertitude.
Il faut accepter à un moment de prendre le risque. Et d'ailleurs, quand vous regardez l'intelligence artificielle, il faut vous imaginer que vous avez une combinaison de plusieurs dimensions. Vous avez un degré d'incertitude d'un problème, et puis vous avez le nombre de données que vous avez pour le traiter. Quand vous avez pas beaucoup d'incertitude, et puis beaucoup de données, vous êtes dans de l'informatique traditionnelle. Quand vous avez beaucoup d'incertitude, et puis beaucoup de données pour le traiter, vous êtes typiquement de l'intelligence artificielle. Et quand vous avez un fort degré d'incertitude et pas beaucoup de données pour traiter, il n'y a que l'humain qui peut faire ça. Oui. Et il n'y a que l'humain qui peut prendre ce risque-là. Sortir du lot, être très différent, sortir quelque chose de très différent, de révolutionnaire, c'est vraiment là qu'est l'humain.
Super. Et alors, s'il y avait un ultime conseil, une ultime idée que vous voudriez que les gens gardent en tête après vous avoir écouté ?
Je pense qu'on rentre dans un monde qui va créer beaucoup plus de richesses que celui qu'on quitte en ce moment, c'est-à-dire de l'économie matérielle. Et pourtant, elle nous a amenés dans une situation qu'on aurait, l'humanité n'aurait jamais pu penser avant en termes de confort matériel et de sécurité de vie. Je crois que là, on est dans une société qui se dématérialise et qui va amener encore plus de richesses. Et je pense qu'il ne faut absolument pas avoir peur de l'avenir. Si on avait demandé à un Français de 1918 ou 1919 plutôt, comment il voyait le XXe siècle, il aurait été évidemment incapable de le dire. Peut-être qu'il aurait eu très peur. On est exactement dans la même situation. Je pense que le XXIe siècle est un siècle fabuleux qui est en train de... Bien sûr, il y aura sans doute des horreurs comme il y en a eu au XXe siècle, mais je pense qu'il faut y aller. C'est un siècle de conquête et il y a tout à construire.
Bah, parfait, c'est très engageant. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à vous d'écouter le Boulevard de la Corderie. Vous retrouverez les notes de l'épisode et l'actualité du podcast sur Instagram. Laissez vos commentaires et vos questions, j'y répondrai dans le prochain épisode de questions-réponses. Je vous invite à vous abonner au podcast sur iTunes et surtout à le partager avec vos amis, collègues, voisins ou individus se baladant l'air pensif le long des boulevards. Merci et à la prochaine fois. We'll be right back.